Et moi, je suis actuellement dans une période de vie où je suis fan de Jésus. Je suis complètement admirative. Je suis admirative de sa personnalité. Je suis admirative de son amour parfait pour les hommes et pour les femmes. Et depuis plusieurs années, et beaucoup en ce moment, en fait, je me pose beaucoup de questions sur le fait pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, on n'y arrive pas à aimer comme Jésus. Pourquoi on ne parvient pas à être semblable à lui. Alors je me pose pas mal de questions, j'ai quelques éléments de réponse et je voulais un peu parler de comment j'ai grandi. Et c'est vrai que enfant, moi, j'ai toujours été nourrie, je crois que j'ai été un peu élevée comme ça, par des histoires qui parlaient de l'amour de son prochain. J'ai grandi dans une église où vraiment l'amour de son prochain, c'était quelque chose qui était cultivé. Et j'ai aimé ces témoignages-là, et je suis sûre que vous connaissez tous, on a été nourris avec ça, petit, l'histoire de Corrie ten Boom, par exemple, moi, qu'on me racontait de cette femme du Pays-Bas pendant la guerre, et, merci, qui elle-même a été dans des camps de concentration, qui a témoigné toujours dans la douleur de l'amour de Jésus par-dessus tout, et qui après avait rencontré, sa sœur est morte, et elle a perdu ses parents, sa sœur est morte pendant les camps de concentration, et quelques années après, alors qu'elle continue à faire des conférences, elle continue à témoigner de ça, elle a rencontré le bourreau de sa sœur, à qui elle a pu demander pardon, enfin voilà, toutes ces histoires-là que vous connaissez sans doute, moi, m'ont beaucoup nourrie. Encore dernièrement, je lisais un livre sur le métier d'infirmière pendant la Première Guerre mondiale, et ces infirmières qui étaient... qui avait cette abnégation, en fait, hein, ce savoir-faire fi des apparences pour s'occuper de l'autre, et voilà, c'est des histoires, moi, qui m'ont beaucoup nourrie. Et je me rappelle quand j'étais petite, alors je devais avoir peut-être une huitaine d'années, heureusement, merci Seigneur, ça n'existe plus, mais il y a une quarantaine d'années, j'étais en vacances avec mes parents au bord de mer, je ne sais plus quelle ville de France, en bord de mer, et on allait le soir dans les foires. Et il y avait dans cette foire, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je me rappelle, on passait devant un stand, et il y avait un stand, c'était écrit « spectacle, ici venez découvrir la femme à barbe ». Et pour moi, ça a été d'une violence, et ça a sans doute déterminé en moi mes choix de vie plus tard, où je suis devenue éducatrice, et j'ai choisi vraiment de faire un travail d'accompagnement des gens, mais vraiment est né en moi à ce moment-là ce sentiment d'injustice et ce sentiment un sentiment très fort contre l'injustice et contre l'humiliation. Voilà, ça n'existe plus, je pense que ça a été interdit après, fort heureusement. Mais en tout cas, voilà, cette question de l'amour de son prochain est vraiment devenue centrale pour moi. Et cette question qui reste, mais pourquoi on n'arrive pas à aimer comme Jésus, en fait? C'est quoi les blocages? Et alors, j'ai un verset qui est sublime, que je vais vous lire. Alors, voilà. C'est dans Actes, versets 32 à 34. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants était un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement, car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'ont distribué à chacun selon ses besoins. Alors c'est vrai qu'on aurait besoin d'un petit éclairage historique sur ça, parce que pour moi, c'est un exemple de... Il y en a eu peu dans l'histoire, mais en tout cas, à ce moment-là, et on lit dans le texte que personne qui était là était vraiment rempli par le Saint-Esprit et rempli par l'amour, et le partage des biens a marché. On sait après ce que ça a fait, le communisme, ça n'a pas marché, ça a été un échec, mais en tout cas, à ce moment-là, ça a vraiment marché. Et j'aime ce début du verset qui dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est beau. Hein. Bon, alors pourquoi on n'y arrive pas à aimer comme ça? Alors je crois que d'abord on n'y arrive pas, d'abord et avant tout parce qu'on a un peu oublié ça, parce qu'on oublie un peu cette âme et on oublie un peu, on s'éloigne en tout cas un peu de ce Saint-Esprit-là. Puisqu'ils disent bien en fait hein, dans ce texte d'Actes, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce était sur eux tous. Voilà, donc on sent quand il y a cet amour-là qui les tient, il y a une puissance qui est là et il y a une grâce après. Ok. Donc ça, c'est vraiment une des premières des choses, je pense, hein, qui fait qu'on n'arrive pas on n'arrive pas toujours, en tout cas, à aimer comme Jésus. Et puis aussi, parce que je crois que chacun de nous, on est pétri de préjugés, de peurs, de jalousie, de rivalité. Et d'ailleurs, dans ce passage d'Actes, juste après, en fait, il y a l'histoire d'Ananias et Saphira qui, eux, du coup, ne vont pas partager tout leur bien. Donc, on entend bien ces jalousies, ces peurs, cette peur de plus posséder, cette peur de perdre, certainement. Donc, oui, on est pétri de toutes ces peurs-là, de tous ces préjugés-là. Et sans doute, parce qu'on ne s'aime pas, en fait. Pour moi, on ne peut vraiment pas aimer comme Jésus si on ne s'aime pas soi-même. Parce que finalement, tous ces sentiments dont je parlais tout à l'heure, la peur, la jalousie, la rivalité, l'égoïsme, et il y en a plein, vous les connaissez toutes, en fait, ils sont la conséquence du fait que je ne m'aime pas. Si je ne m'aime pas, je vois en l'autre ce que j'aimerais être, et donc je suis jalouse, et ça va éveiller en moi un sentiment négatif, ou au contraire, l'autre me renvoie soit j'admire quelque chose chez l'autre, soit je déteste ce qui me renvoie de moi, enfin, quels que soient les sentiments, en tout cas, cela me montre qu'on s'aime mal. Voilà. Qu'on s'aime mal, et qu'on s'aime trop ou qu'on s'aime pas du tout, en tout cas, on s'aime mal. Et c'est compliqué de devenir un disciple de Jésus si nous-mêmes on s'aime mal. Comment je peux aimer les autres si moi-même je ne m'aime pas? Alors, dans la Bible, des passages sur l'amour, je crois qu'il y en a toutes les pages, il y en a dans tous les chapitres, et j'en ai pris deux. Alors, je les recherche. Voilà, dans Ésaïe 54, verset 10. Il est cassé. Quand les montagnes s'en iraient, quand les collines vacilleraient, ma fidélité envers toi, ou dans certaines, c'est pas la même version, mais mon amour envers toi ne s'éloignera pas, et mon alliance de paix ne vacillera pas, dit le Seigneur, qui a compassion de toi. Voilà. Moi, je ne m'aime pas, et pourtant, Dieu y m'aime. Donc, pour s'aimer, il faut se connaître. Et c'est un peu l'histoire d'une vie, de se connaître. Je pense qu'on peut mettre une vie entière à essayer de se connaître. On n'y arrive pas vraiment. Alors, il y a plein... C'est important, en tout cas, pour moi. Et je vous encourage à le faire. Je pense que c'est très important d'apprendre à se connaître. Alors, on peut le faire... sur un travail d'introspection, on peut le faire avec un psy, avec une psy, on peut le faire évidemment et surtout dans la prière avec un ami ou avec une amie. Et finalement, moi, au bout de toutes ces années, je me suis dit que finalement, je crois que je ne me connaîtrai jamais totalement et je ne m'aimerai jamais totalement comme Dieu me connaît. Et puis après, je crois que vraiment le Saint-Esprit m'a dit « mais tant pis ». Tant pis, moi, c'est pas ce que je te demande. Je veux juste l'entendre me dire. Moi, je veux juste entendre Jésus me dire, ici, là, dans cette période de vie, tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas, mais moi, là, pile dans cette période de vie, ben moi, je t'aime. Alors, ok, Jésus, je baisse les armes, je baisse la garde. Mon job maintenant, c'est de m'imprégner, de me nourrir de l'amour de Jésus pour comprendre comment il peut aimer de cette façon. En ayant conscience que on n'y arrive pas très bien, mais en tout cas, avec Jésus, Alors oui, aimer vraiment, aimer de manière inconditionnelle, c'est compliqué, c'est difficile. Mais Dieu nous fait la grâce de ne pas connaître tout le monde. Et lui, Jésus, est le seul en fait, hein, est le seul à connaître sur cette terre tout le monde. Moi non, on est trop nombreux. Et il y a une phrase qu'on entend beaucoup, moi je déteste cette phrase, c'est quand on parle « Ah mais de toute façon on ne peut pas aimer tout le monde ». Et moi j'ai envie de dire « Mais oui, de toute façon on ne connaît pas tout le monde, donc évidemment qu'on ne peut pas aimer tout le monde ». Mais voilà, c'est déjà un good job d'essayer d'aimer ceux qui sont autour de nous, c'est déjà pas mal, ça suffit. On ne va pas se mettre le challenge sur toute la planète, on n'y arriverait pas. Aimer c'est quoi en fait ? C'est pas forcément passer du temps, un maximum de temps avec une personne avec qui on n'a pas spécialement des affinités, avec qui on voilà, on n'est pas obligé de manger avec la personne, on n'est pas obligé de partir en vacances avec elle. Par contre, on peut écouter. Par contre, on peut écouter si elle en a besoin. Écouter, ça s'apprend. Il y a des techniques et puis il y a Jésus qui nous apprend, il y a le Saint-Esprit qui nous aide à écouter. Parce que quand on écoute quelqu'un, il faut s'oublier un peu, il faut se taire, il faut compatir. Vous savez, dans le mot compatir, ça veut dire souffrir avec. Et aimer pleinement. Moi, il y a une phrase qui me parle beaucoup en ce moment aussi, que j'entends, et je me dis, mais en tant que chrétien, on ne peut pas penser ça comme ça. Et je voudrais vraiment m'encourager, vous encourager à ça. Ça ne plus dire « mais » à la fin de nos phrases. « Je t'aime, mais... » Et finalement, Jésus nous dit « Je t'aime ». Il n'y a pas de « mais » après. Je crois qu'en tant que parents, on ne dit pas à nos enfants « Je t'aime, mais... » On dit « non » à nos enfants, et ça, c'est très important. On dit « non » sur certaines choses, mais on ne dit pas « mais ». Aimer inconditionnellement, ce n'est pas rajouter un « mais » à la fin de nos phrases. Il y a beaucoup de sujets... sur lesquels on met un mais, bon, ça c'est un autre débat. Et puis je crois que quand on n'arrive pas à aimer, on a le droit de le dire à la personne, on a le droit de lui dire, mais moi j'arrive pas à t'aimer comme Jésus, c'est compliqué pour moi, c'est douloureux pour moi, mais lui il t'aime parfaitement. Et puis surtout, je crois que ce qu'on peut dire à Jésus, c'est moi j'y arrive pas, mais toi, je sais que tu peux. Toi, tu peux déjà. Toi, tu y arrives déjà et tu y arriveras toujours. Alors, en tout cas, on avait envie de parler des choix qu'on fait avec Luc dans nos vies. Et je crois que aimer les autres, c'est un choix. C'est un engagement. C'est un acte de foi parce qu'on ne le fait pas seul. Et juste aimons-les seulement. Et pas... L'idée, c'est de dire, je vais aimer quelqu'un pour ce qu'il est, même si ce n'est pas les choix que j'aurais fait. Je pense qu'en tant que parent, ça arrive sans doute et ça arrivera ou pas, ou peut-être pas, mais ça arrive en tout cas avec nos proches, avec nos enfants. Je n'aime pas forcément les choix que tu fais, mais par contre, je t'aime pleinement. On arrête là, je t'aime. Voilà. Ça, c'est les choix. À toi, tes choix.
Merci, Lydie. Merci. Waouh. Je suis super ému, c'est tellement vrai ce que tu as dit. Aimer les autres malgré leur choix. Et ça tombe vraiment bien parce qu'on n'avait pas prévu. Et puis Claire et Stéphanie ont mis l'accent sur justement les choix qu'on fait. Et là, si tu veux bien me mettre ma petite image maintenant, s'il te plaît. Donc moi, je vais parler aujourd'hui des croix. Donc les croix, vous connaissez, on parle de la croix de Jésus et on parle des croix, pas au sens habituel chrétien qu'on a l'habitude de parler, mais de ces croix qu'il y a à la croisée des chemins. Alors ce matin, en venant ici, vous avez dû en voir au moins une dizaine. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, avant, les catholiques, enfin, à chaque croisée de chemin, remettaient leur sort avant chaque décision. Et puis ça m'a trotté dans la tête, et puis j'ai demandé à ChatGPT de me faire une petite image d'une croix à la croisée des chemins. Et ce ChatGPT, il a fait n'importe quoi. Vous avez vu ? Il a placé la croix, bim, en plein milieu du chemin. En disant, mais ça ne marche pas du tout, parce que ça, c'est des chemins où on roule en voiture, et puis la croix, elle est au milieu. Donc j'ai dit, corrige, mets la croix à côté. Puis il ne le faisait pas, puis il ne le faisait pas. Puis je me dis, mais punaise, incroyable. Et alors, en plus, il a fait une croix avec des flèches. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'était exactement ce que je voulais partager. Donc je vous laisse cette image comme une erreur, mais qui finalement va avoir un petit peu de sens. Je veux parler des choix qu'on a à faire. Donc Lydie a parlé du choix d'aimer l'autre malgré ses choix, malgré ses différences, malgré ses décisions, ses orientations. Aujourd'hui, on donne même le choix de son orientation sexuelle, c'est aberrant. Mais par contre, Dieu peut nous aider à aimer, quels que soient les choix. Et que ce soit à droite ou à gauche, Dieu nous accompagne. Alors j'aime bien cette image parce qu'effectivement, ça fait un peu comme des flèches. Et il vous accompagnera aussi, quelles que soient vos décisions. Et Lydie a eu un témoignage quand on était à Resonate, une parole où Dieu nous a vraiment dit « Il n'y a pas de mauvais choix. Je serai avec vous. » Mais par contre, choisissez, ne restez pas stagne. J'ai bien aimé quand tu m'as présenté comme un homme d'action. Oui, je suis un homme d'action. J'aime quand ça bouge. J'aime le livre des actes. J'aime quand on prend des décisions, quand on avance. Le challenge de Jésus pour faire avancer le royaume de Dieu, c'est faire avancer le royaume de Dieu, pas faire stagner le royaume de Dieu là où il en est. Hein? Et donc, je veux parler des rêves. Des rêves où vous aimeriez aller. Vous êtes venu ici, peut-être que vous avez des rêves. C'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup parlé dans mon histoire à vous. Et les rêves et les réorientations que Dieu fait. Alors, il y a plein d'histoires dans la Bible, évidemment. Jonas, où Dieu réoriente, fait des virages à 90 degrés, tout ça. Psaume 138, que j'aime énormément, dit « Où pourrais-je aller loin de toi ? Ou fuir loin de ta présence ? Quel que soit mon choix, Dieu sera là. » Et je veux juste vous raconter mon témoignage très rapidement, parce que je l'écrirai, je vous promets. Mais Dieu a complètement changé de direction ma vie. Moi, j'ai toujours rêvé, quand j'avais 8 ans, d'être architecte. Je gagnais mal ma vie, je faisais beaucoup d'heures aux dépens de ma famille et de ma femme après mon diplôme, jusqu'à une maladie grave en 2011 et le décès de mon père. Et ce 2011, ça a été un changement radical pour moi. En 2011, Dieu m'a rappelé mon rêve de construire des églises que j'avais eues à l'âge de 8 ans, en voyant l'église de Gaudi à Barcelone, la Sagrada Familia. Je rêvais de vivre de l'architecture, mais pas tout seul. Alors comment faire ? Comment repartir à zéro ? Comment ne pas stagner ? Des choses impossibles se dressaient devant moi. Quand on est face à un choix, on se dit « mais je ne vais jamais y arriver ». Et ça nous rend paralysés. Ça nous empêche d'avancer. Et il y a un livre de Joyce Meyer que je conseille à tout le monde qui dit « J'avance malgré la peur ». Avec Dieu, j'avance malgré la peur. Parce que la peur ne doit pas nous freiner. La peur ne vient pas de Dieu. Et quand on fait des choix, ben on a peur, on a la trouille, on évalue comment on fait, c'est quoi le risque et tout. Ah là là, je vais devenir... Et c'est ça qui nous paralyse. Et aujourd'hui, Dieu a besoin d'hommes d'action. Tous les jeunes, là, Dieu a besoin que vous soyez dans ces flèches, que vous avanciez, qu'on ne soit pas stagnant. Et les anciens aussi, et les enfants aussi. Chacun où on en est. Alors, je ne sais pas si vous avez une décision en tête aujourd'hui, ce matin, quelque chose que vous hésitez. Ah, j'ose pas, j'y vais pas. C'est un investissement. Ah non, c'est une demande de pardon. Ah, ça va trop changer, ça va trop bouleverser ma vie. Ou vous êtes en confort sur la voie traditionnelle comme ça, avec tout le monde, avec la majorité. Ah, je fais comme tout le monde. Allez, c'est bon, on fait comme ça. Et si Dieu vous parle de ces choix-là en ce moment, si le Saint-Esprit vous aiguillonne, ben, je vous suggère de le laisser vous parler. Quel choix j'ai à faire aujourd'hui pour que ton règne vienne, Seigneur ? Est-ce que c'est le choix d'aimer inconditionnellement ? Est-ce que c'est le choix de changer de vie, de prendre un risque ? Un risque avec toi, Seigneur, va m'apporter de la paix. C'est l'indicateur que je veux vous donner. C'est l'indicateur qu'on se met dans notre vie à nous. Quand on n'est pas en paix, on dit « bon, ben allez, on va changer, on va changer. » Je suis en paix, ne crains pas, car notre Dieu combat pour nous. Tu l'as dit plusieurs fois encore ce matin. Et puis parfois on fait des choix et pouf, on se retrouve dans des déserts. Waouh. Des déserts de la maladie, comme j'ai pu vivre. Eh bien, il y a des avantages. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Considérer les épreuves comme des sujets de joie parfaite. Eh bien, dans le désert, il n'y a pas de bruit. Tu as évoqué aussi le brouhaha. Entendre Dieu et choisir Dieu malgré le brouhaha. C'est exactement ce que j'ai écrit là. Rappelons-nous de nos rêves. Profitons d'un moment de désert pour dire « Mais c'était quoi mon rêve ? Où est-ce que j'en suis ? Prendre un peu de recul. C'est quoi les décisions ? Est-ce que je stagne ou est-ce que j'avance ? À droite, à gauche, tout droit, je ne sais pas. Prends une décision, vas-y, avance mon frère, avance ma sœur. Décide-toi, emmène des gens avec toi, fais-toi conseiller. De quoi est-ce que j'ai besoin ? J'ai besoin d'écrire, écrire mon rêve. Écrire mon témoignage, écrire ce que Dieu. Écrivons. Un rêve, ça reste un rêve tant qu'il n'est pas posé sur le papier. Il commence à devenir réalité à partir du moment où on prend un stylo, une feuille blanche et j'écris. Waouh, je ferai bien ça des 20 ans qui me restent à vivre, des 5 ans qui me restent à vivre. Ouais, quel que n'importe soit l'âge, je ferai bien ça de mon orientation. Et on écrit. Et Dieu, et vous le gardez, vous le pliez, vous le gardez, vous mettez ce dont vous avez besoin. Ce dont vous avez envie, ce qui vous fait peur, vous mettez vos craintes, mais vous écrivez. Proverbe 3 dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. » Notre propre intelligence, c'est « Ouais, je vais calculer tout ça. Ah, » Ok, on va calculer, mais allez, on avance. Ne passons pas devant ces croix sans remettre nos choix. Et ne nous laissons pas guider par les peurs. La peur, c'est demi-tour ou stagnation. L'habitude, bon, ben, j'ai l'habitude, je vais tout droit, je ne regarde même plus. Voilà. Ou par la majorité, ben, le chemin le plus large, c'est plus confortable. Ce n'est pas ça qui doit nous guider. Frères et sœurs, Philippiens 4 nous dit, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et qui mérite louange. Quand on se nourrit de louange, on prend les bonnes décisions et les bons choix. Et du coup, ce matin, je voulais juste faire cette prière et peut-être que chacun ferme les yeux et en son cœur évalue cette balance. C'est un peu comme si on avait un petit balancier, une petite balance. J'y vais pas, je le fais pas. Remettons ces décisions devant Dieu. Seigneur, quand nos cœurs s'agitent et que les soucis du monde nous envahissent, rappelle-nous que tu es plus grand que nos tempêtes. Aide-nous à voir les choses à la lumière de l'éternité, à ne pas nous laisser écraser par ce qui passe, mais à nous ancrer dans ce qui demeure. Donne-nous la sagesse de discerner l'essentiel, Père. La paix de remettre entre tes mains ce que je ne peux pas changer. Et la foi de marcher chaque jour, pas à pas, avec confiance, Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas esclave de mes émotions, mais libre dans ton amour, libre d'aimer sans limite, libre de rencontrer les autres, quelles que soient leurs différences. Seigneur, on a chanté ce matin que des murailles tombent, et je veux vraiment vous prier, que vous puissiez faire cette prière, oui Seigneur. On veut que les murailles tombent dans nos cœurs, des murailles qu'on laisse ériger par la peur, par la différence. Simplement se laisser guider par la paix, d'aimer l'autre, quels que soient ses choix, et la paix de savoir que toi tu nous aimes, quels que soient nos choix. Alors Seigneur, on veut être guidé, on veut que ce soit ton esprit, oui, qui nous convainque. On croit Seigneur que tu tiens à nos vies, que tu tiens à ma vie, que tu tiens à moi. Et quand toi, Seigneur, tout concourt au bien de ceux qui t'aiment.
Jésus, je t'aime tellement. Jésus, c'est vrai qu'on veut être inondé par ton amour. On veut prendre conscience de la perfection de ton amour, Seigneur. Ça me reste encore incompréhensible aujourd'hui. J'arrive pas à comprendre comment tu fais pour aimer autant, mais je le reçois, Jésus. Je le reçois vraiment. Je veux apprendre de toi, je veux qu'on apprenne de toi, que nous tous qui sommes là aujourd'hui, on apprenne de toi, qu'on sache t'aimer comment tu aimes. Mais Jésus, on veut te dire merci. Merci de nous aimer autant. Merci d'avoir pris soin de nous dans le désert, Seigneur. Merci de parler dans le désert. Merci de parler dans le brouhaha. T'es un Dieu puissant, Seigneur, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête parce que toi, tu nous connais profondément. Tu nous connais alors que nous-mêmes, on ne se connaît pas. Alors que nous, on ne s'aime pas. Toi, tu nous aimes, Jésus. Je veux te dire merci. Merci, c'est vrai, Seigneur. Tout à l'heure, quand on priait juste avant, Claire, elle disait, j'ai trouvé ça très beau. Ce n'est pas un dimanche de plus. C'était Stéphane. C'est un dimanche avec toi. C'est un dimanche encore où je vis quelque chose de nouveau. Et Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci pour tout ce que je ne comprends pas. Mais je te dis merci parce que tu es parfait. Alors oui, on se remet devant toi, on te remet nos choix, les décisions qu'on doit prendre, les actions, le pas en avant qu'on doit faire, Seigneur. Te dire, je veux le faire avec toi. Parce que tu es le seul Dieu bon. Tu es le seul Dieu, Seigneur, je t'aime. Amen, Jésus.
Et s'il y en a ce matin qui ont des pas en avant de pardon à faire, c'est aussi des grandes décisions. Moi, j'ai un témoignage à vous raconter aussi. On s'est pardonné avec mon ancien associé. Ça faisait 10 ans qu'on ne se parlait plus. Et vous ne pouvez pas savoir le poids qui tombe quand on arrive à pardonner. Les verrous qui s'ouvrent avec le pardon, l'acceptation que le choix de l'autre ne me convient pas, et ben Seigneur, j'accepte et je te pardonne. Je te pardonne parce qu'on ne s'est pas compris, je te demande pardon parce qu'on ne s'est pas compris, parce que tu as fait des choix différents de ce que j'aurais aimé. Et juste vous dire que ça donne une impression comme si... Vous savez, quand on a perdu ses clés pendant des jours et qu'on a cherché et puis qu'on les retrouve pas et que d'un coup on les retrouve, ça donne un sentiment de liberté, mais vous pouvez pas savoir. C'est ça, décuplé x10. Et Dieu, il veut ça vraiment pour plusieurs personnes ce matin. Réfléchissez à qui vous avez, certaines personnes ont des personnes à qui ils savent, oui, mais lui ne me pardonne pas et moi, et c'est lui, c'est pas moi. Faites le premier pas, faites cette action. Faites un virage à 90 degrés. Dieu sera avec vous dans cette demande de pardon. Allez-y. Vous allez voir les clés que ça ouvre. Vous allez voir les fruits et les bénéfices. Et Dieu sera avec vous.